Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Message à caractère informatique, l'épisode numéro 13. Et aujourd'hui, pour commenter les news de l'IT, j'ai une formidable équipe avec moi, une formidable équipe dans laquelle on peut compter Clément Nival.
Bonjour à tous. Alors moi je suis Clément Nival et du coup je me présente. je suis cofondateur de Clever Cloud. Je m'occupe de tout ce qui est marketing et tenue des comptes de la boîte, tout ça.
Et nous avons également Hubert Sablonnière, de retour de vacances.
Bonjour.
Bonjour Hubert.
Bonjour, donc moi je suis Hubert Sablonnière. Chez Clever Cloud, je m'occupe de tout ce qui est front-end web et un peu de notre ligne de commande aussi.
Et aujourd'hui, de façon tout à fait extraordinaire et exceptionnelle, nous avons un invité prestigieux. Je vous présente à tous Kwame Yangname.
C'est pas très radiophonique.
Non, c'est pour les auditeurs.
Et donc pour ceux qui n'ont pas l'image, Kwame est venu avec TTY.
Son chien. C'est quoi, attends, c'est quoi comme marque, Kwame?
Deux chiens, c'est pas une marque, c'est un chien Unix. C'est ça qui s'appelle TTY. Okay. Son prénom c'est Slash Dev.
Slash Dev au pied. Bien ça.
Kwame, est-ce que tu veux te présenter vite fait?
Rapidement, donc je m'appelle Kwame. Moi, chez Clever, je m'occupe de rien. Je suis un des fondateurs de ma nouvelle entreprise qui s'appelle Quasar, Silicon Valley, où on fait de l'éducation. Je suis anciennement un des fondateurs de 42, et puis j'ai aussi participé à la fondation d'Epitech dans la fin des années 90. Ce qui fait de moi ici, tout âge confondu, même avec mon chien, le plus vieux de la bande.
Même sans le chien.
Je pense qu'on peut dire que Kwame est responsable d'un grand nombre de développeurs français. Je veux dire, en termes de création de développeurs, il a beaucoup donné dans la création de développeurs.
Je me suis beaucoup reproduit, ouais, j'avoue.
Et du coup, ouais, la dernière boîte que tu as créée, c'est Quasar. C'est une sorte de toolbox pour faire, c'est ça, des écoles d'informatique en distanciel. Et pas seulement, c'est ça?
Exactement. Donc en fait, c'est un SaaS. On propose en fait aux gens un learning management system plus des contenus pour apprendre à développer. Le but du jeu, c'est de réussir à joindre, de prendre ces 20 ans d'expérience à fabriquer des écoles un peu dans le monde entier, d'améliorer tout ce qu'on a pu faire des choses légères différentes, bien évidemment, et le proposer à qui veut dans le monde entier veut ouvrir des établissements. Donc on a à peu près un peu plus d'un millier d'étudiants là sur la plateforme depuis vendredi de la semaine dernière. On a lancé le produit en premier test en novembre 2019. On travaille avec des partenaires. On est sur les US, bien évidemment. On est sur le Canada, sur le Mexique, sur le Nigeria, sur le Kazakhstan et sur l'Australie actuellement.
Et donc, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Kwame vit ASF, en fait. Et donc, on l'a obligé à se lever très tôt ce matin.
Mais je devais nourrir mon chien. Du coup, ouais, je me suis quand même levé parce que j'aime bien mon chien. Un TTY, mon chien!
En fait, TTY, il est au bout de sa vie, il a des caresses, il est trop content pour ceux qui n'ont pas l'image. Bon, je vous propose qu'on commence à dépiler les infos. La première info qui nous vient, c'est une info, c'est la sortie du Fairphone 3+. Peut-être c'est une news d'Uber, peut-être.
Ouais, c'est bizarrement. En fait, hier, Fairphone, société basée aux Pays-Bas, a annoncé la sortie du Fairphone 3+. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, Fairphone, c'est une marque qui fait un smartphone équitable, responsable et modulaire. Donc ils essayent de sourcer un maximum les matériaux depuis des endroits un peu moins crades que ce que font les concurrents. Donc que ce soit en termes de matériaux qui viennent de pays en guerre, en conflit, au maximum de limiter le travail des enfants, enfin tous ces trucs-là. Bien entendu,
ils vont visiter des usines,
ils tracent mines, exactement,
ils vont très très loin, ils font les mines, ils tracent les usines. Et en fait, ils essayent vraiment de sortir un téléphone fer et et après, il y a la partie open source.
Voilà, et alors après, au niveau hardware, ils essayent le plus possible que ce soit modulaire. Alors, pour ceux qui ont l'image, je vous montre, moi j'ai un Fairphone depuis 10 jours. Et donc, en fait, avec un ongle, tu déclipses cette partie-là, et après, tu peux, à l'aide d'un petit tournevis qui est fourni avec, le démonter complètement. Et donc, par exemple, l'appareil photo, c'est un module, la batterie se change, bien entendu, l'appareil photo devant, c'est un module, le jack, c'est un module, etc. Et donc, moi, j'ai dû changer de smartphone il y a 10 jours parce que le mien était vraiment rad. J'ai choisi ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que t'as plein de gens qui me disaient « Ouais, mais c'est que Android 9 ou l'appareil photo, il est pas très bien. » Moi, je disais « Ouais, mais le téléphone, il est modulaire, quoi. » Et on me dit « Ouais, c'est ça. Jamais en rêve, ils vont mettre à jour des trucs. » Et bim, hier soir, la news tombe. Donc, ils ont sorti ce qu'ils appellent le Fairphone 3 Plus, qui est essentiellement des specs assez similaires au Fairphone 3 que j'ai acheté, qui existe depuis un peu moins d'un an. Sauf que il a un meilleur appareil photo, il sort avec Android 10, et la petite cerise sur le gâteau, en plus d'avoir sorti ce Fairphone 3+, c'est que le nouveau module d'appareil photo est compatible avec le Fairphone 3. Et donc, pour une somme de... J'ai oublié, je crois que c'est à peu près 60€, je peux mettre à jour juste mon appareil photo, faire recycler l'ancien module par un partenaire gratuitement, et mettre à jour mon smartphone. Et en fait, on pourra dire ce qu'on veut de cette marque, hein, avec le prix, si tu compares aux concurrents, bien sûr que tu as des specs moins bien, le design est très sobre, moi c'est ce qui me plaît, mais beaucoup de gens vont dire que c'est moche ou je sais pas quoi, mais ils continuent à progresser sur leur promesse de lutter contre l'obsolescence programmée et de faire un truc qui est évolutif. Qui évolue, quoi.
Les modules, la caméra back coûte 60€ et la caméra top frontale elle coûte 34€. Donc ça fait un upgrade pour 85 balles. Vous avez upgradé vos deux téléphones.
Et là, en ce moment, il y a une réduction si tu prends les deux d'un coup.
Si... Ouais, apparemment, tu as une réduction à 25€.
Voilà.
Donc,
si bien faire
60
des
balles pour upgrader vos téléphones. Alors, en vrai, c'est des gens super cool qui font d'open source, qui sont intéressants. Enfin, j'aime beaucoup la mission de Fairphone et je trouve que c'est incroyable et je trouve qu'ils tiennent les choses. C'est des gens qui mesurent beaucoup la durée de vie des téléphones dans le temps et le support dans le temps des téléphones. Et je me souviens avoir eu des longues discussions parce qu'on a des amis qui bossent là-bas. Et j'ai eu des longues discussions avec certains d'entre eux qui m'expliquaient que il y avait des marques de téléphone comme OnePlus, le support de leur version d'Android par modèle, il était de 8 mois.
Ah oui.
C'est-à-dire que t'achètes le téléphone, au bout de 8 mois, le support Android, rien à foutre, ton Android, il sera comme il sera, quoi. Et ça, je trouve que c'est, enfin, il y a un moment où tu peux faire dans l'obsolescence et dire, là, le machin est trop vieux, il est trop vieux, quoi. Puis après, il y a 8 mois, quoi. 8 mois, c'est... Enfin, c'est court, quoi. T'as même pas fait un bébé, quoi.
Mais là, du coup.
Sauf si t'as mis 8 femmes.
Bien sûr. Là, du coup, mi-septembre, moi, sur un Fairphone 3 qui a, je te dis, je crois, à peu près un an, je devrais avoir Android 10. Et il faut aussi préciser qu'ils ont un partenariat, je sais plus de quand il date, donc normalement, il est encore d'actualité, avec eFoundation, donc l'espèce de Android dégooglisé. Et donc, tu peux le mettre à jour toi-même ou tu peux acheter un Fairphone qui est déjà dégooglisé sur le site de... C'est quoi le nom? C'est eFoundation, un truc comme ça?
Ouais, en fait, le truc, c'est que tu ne peux pas appeler un truc Android si tu ne ships pas
les
avec
Google Play Service
et... tous les services de Googleification et espionnage, là. Et donc, si tu dégueulasses pas ton OS avec... tu n'as pas le droit en fait de vivre
c'est ça.
Et donc en fait c'est tout le point en fait de chez Google. Et donc du coup Fairphone perdrait sa licence Android si jamais il vendait un téléphone sans Android. C'est-à-dire que même au-delà de l'appeler Android, si tu veux continuer à avoir le droit de faire des Android, tu n'as pas le droit de faire des Android sans Google. Et donc en fait ils ont cette espèce de partenariat avec les gens
c'est du
Foundation qui eux ont décidé de toute façon s'engueuler avec Google et ça leur permet du coup d'avoir les deux produits de disponibles. Et c'est encore une fois, c'est les fameux contrats de l'open source Google triomphant où c'est des gens veulent juste améliorer la planète. C'est,
exactement.
Ils n'ont pas, ils n'ont
alors
pas
moi, j'avais juste une question là-dessus, c'est jusqu'à quel point l'OS eFoundation, il est dégooglisé. Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à tout virer ou est-ce qu'il y a encore des trucs, des obligations?
Non, eFoundation.
Il n'y a aucune adhérence à un
pas
Google.
Testé, mais...
eFoundation,
ils ont... T'as rien du tout.
Ah, t'as vraiment pas.
Ça, c'est génial.
Ils ont tout rasé. Bah, quand même, ça te donne, ça te fait réagir cette histoire de téléphone.
Non, mais écoute, c'est sympa. Enfin, franchement, c'est clair que les. Bon, moi, je suis à moitié africain, donc je travaille justement. J'ai beaucoup de discussions en ce moment avec la RDC, donc la République démocratique du Congo, où on trouve principalement toutes les mines qui permettent de fabriquer aujourd'hui nos composants électroniques. Donc le marché il est vraiment enfin c'est assez particulier hein, il y a vraiment le côté enfin bon les mines sont là-bas, ensuite c'est principalement des entreprises de l'est de l'Europe hein, qui font la première transformation des composants et ensuite t'as les assembleurs au-dessus etc c'est-à-dire que même ce qu'on appelle la Silicon Valley ne fabrique plus de silicone hein,
oula oui ça fait longtemps
petit moment
ça fait longtemps enfin entre guillemets ils fabriquent c'est juste des c'est vraiment des assembleurs quoi. Donc c'est des grosses entreprises tchèques par exemple qui font ce genre de choses et c'est clair que ça pose des très très gros problèmes sur ces pays en particulier en RDC. La RDC c'est un pays qui est titanesque en taille. C'est énorme, c'est énormissime. C'est un pays qui a énormément de problèmes à régler, juste par sa taille, quoi. Enfin, c'est quasiment, je sais pas quelle taille ça fait par rapport à l'Afrique, mais c'est, sans mentir, c'est peut-être un sixième. Enfin, c'est vraiment super grand en surface. La partie est est en conflit avec le Rwanda. C'est là qu'il y a les endroits les plus dangereux du monde aujourd'hui, Goma. Enfin bon voilà, c'est super 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 dangereux. On trouve Ebola là-bas, on trouve tout ce qu'on veut. Enfin bon, bref, et voilà. Bon bref, donc du coup ouais, c'est vraiment important d'avoir des gens qui réussissent à faire ce genre de choses et ça m'intéresse pas mal. Hein. Et puis en plus de ça, si tu utilises des OS qui effectivement permettent de faire ce que t'as envie de faire sans avoir la planète entière au cul, c'est pas mal.
Ok cool. Le lien suivant qu'on a, c'est Jake Archibald. Qui nous propose un article sur la gestion de versions concurrentielles de sites web. Je suppose que c'est aussi un lien Hubert Sablenière.
C'est aussi un lien Hubert Sablenière. En fait, si on remonte à il y a un peu avant mes congés, il y a un mois, j'ai eu un client sur le support, un client Clever Cloud, qui nous disait, ah oui, alors j'ai déployé mon site et quand je mets à jour, parfois j'ai des utilisateurs qui se retrouvent avec, ils ont rechargé la page ou chargé la page pendant que ça déploie le site web et il se retrouve parfois avec un bout du site en V1, un bout du site en V2. Et donc, il avait sur le coup, il est parti du principe que c'était de notre faute parce que pendant qu'on fait du déploiement zero downtime, il peut arriver, alors c'est une fenêtre qui est quand même assez courte, mais il peut arriver qu'on serve les deux versions en même temps. Et donc, j'ai essayé de lui expliquer que la fenêtre devrait être de 1 ou 2 secondes, mais que de toute façon, ce problème est beaucoup plus global et qu'il apparaît chez nos concurrents et chez n'importe quelle personne qui héberge un site web et qui fait une mise à jour. Et donc, sur le coup, j'avais un peu sollicité Jake Archibald, qui est DevRel chez Google, dans l'équipe de Chrome, et qui avait déjà fait un article sur comment fonctionne le cache HTTP, etc. Et c'était assez intéressant. Et quelques semaines après, donc, est-ce que c'est parce que je l'ai pingé ou pas, je sais pas, il a publié cet article. Et donc, il revient sur les différents cas qui font que votre utilisateur peut se retrouver avec la page web version 1 de votre site. Et de par différentes conditions, donc si c'est une single page application, un peu genre Gmail ou autre, potentiellement si vous naviguez sur une nouvelle page, ça va recharger des bouts de JS ou des bouts de CSS. Si entre les deux, une nouvelle version a été livrée, il peut y avoir des conflits. Donc il revient un peu sur toutes les problématiques qui sont liées à ça dans cet article, et c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas non plus de solution miracle. Il réévoque le fait que ce qui est pas mal, c'est de mettre tous ses assets sur un CDN qui, entre deux mises à jour, continue à servir les anciennes versions. Mais même ça, dans certains cas, ça va potentiellement casser votre site, ça va dépendre de ce que vous essayez de faire. Alors aussi, comme Jake Archibald, c'est un peu monsieur service worker, il propose aussi une solution à base de service worker. Donc je vous conseille vraiment l'article.
Ouais, ce qui est sûr, en fait, c'est que c'est pas un problème. La grande solution que tu proposes, c'est de dire que ouais. L'application va publier en fait une version sur un service et que comme ça, l'application en local va pouvoir comparer son numéro de version avec l'application qui est publiée chez par l'application
en tant que telle,
recharger tout s'il le faut. C'est une des solutions. L'autre solution, c'est de dire de toute façon, pense à bien mettre tous tes noms d'assets avec un hash de la version à l'intérieur. Ce qui est une autre solution. Enfin, il en laisse un certain nombre. Moi, je vous laisse regarder. Il y a des choses marrantes à base d'HTTP2 aussi. Enfin, c'est assez cool. Enfin, je vous laisse regarder. Je sais pas si Clément ou Quam, vous avez des points de vue sur ce truc-là aussi. Enfin, Quam, le web, c'est pas trop tata.
Alors, moi, j'ai passé un bac informatique à l'époque où la RFC sur HTTP n'était pas sortie.
Voilà.
Donc, globalement, la dernière fois que j'ai fait du HTML, CSS, ça existait pas. Donc, non, effectivement, j'ai pas trop d'avis sur le sujet. Je connais pas bien, non.
Non, alors, moi, j'ai bien aimé cet article parce que c'est un truc sur lequel les clients, en fait, reviennent assez régulièrement quand ils viennent chez nous. Enfin, quand ils posent des questions sur l'usage de Clever, ben je leur dis, vous pouvez déployer comme vous voulez, autant de fois que vous voulez par jour. Et ils disent, ouais, mais effectivement, ce problème-là, dans quel cas tu gères? Je suis content, j'ai un peu de ressources là-dessus. Et ça va au-delà de ce que tu peux faire avec, il y a une nouvelle mise à jour, en fait, de ton service, recharge la page. Et, en vrai, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si nous, on peut s'en inspirer, Hubert, mais en tout cas, ça a l'air vachement cool.
Bah, nous, sur la console, par exemple, on check justement le fait qu'il y a une nouvelle mise à jour et on te propose de recharger ta page s'il y en a une, ce qui est... Ouais, en plus, c'est très vieux. Et ça peut paraître un peu bourrin, mais c'est ce que font beaucoup de single-page applications et en vrai, au moins, tu forces pas un rechargement à l'utilisateur, il le fait quand il veut. Et s'il y a un problème, il a été prévenu quand même qu'il y ait une mise à jour.
Et chez nous, il y a assez peu d'assets qui sont allés chercher à droite à gauche. Il y a assez peu de breaking changes dans l'API. Donc, ce n'est pas spécifiquement gênant. Mais dans le cas d'usage de la personne en face, ouais, c'était dans le cadre d'un vrai SaaS. Là, tu peux changer un paquet d'images, tu peux changer un paquet de routes, tu peux changer un paquet de trucs parce que tu n'as pas un produit d'API. Et ouais, c'est pertinent en fait, toutes les astuces. Lisez l'article, il est vraiment très intéressant.
Ouais.
Je pense que l'affaire est pliée. Ouais. On parle rapidement de Modern Web, parce que après on passe sur la suite. C'est un blog sur Introducing Modern Web. C'est plus une espèce de compilation de guide, si j'ai bien compris.
En fait, Modern Web, c'est un projet offspring, on va dire, des gens qui a derrière Open Web Component. Donc ça fait bien un an et demi. Allez, un an et demi, on va dire, 2 ans que le projet existe. Et donc, Open Web Components, c'était plein de gens, notamment des gens de chez ING Pays-Bas, qui bossent sur des Web Components et qui ont commencé à créer des outils dédiés, des guides, des bonnes pratiques, des configs de lint, de thèse, de storybook, etc. Et au fur et à mesure des outils qu'ils ont créés, notamment un serveur de dev, ils se sont rendu compte qu'ils avaient créé des trucs qui étaient utilisables sans service worker et sans web component et juste avec des projets web assez modernes en fait. Et donc ils ont commencé à splitter un peu tout ça. Et donc derrière Modern Web, ils vont regrouper un ensemble de guides et de bonnes pratiques autour de des modules ECMAScript, des trucs comme ça. Et ils regroupent pour l'instant 2 outils qu'ils ont bougés. C'est leur test runner et leur serveur de dev. Et le test runner, moi je l'utilise depuis la semaine dernière. Je l'ai enfin testé. Et c'est juste une tuerie. C'est hyper simple. Tu testes avec des vrais browsers headless, la config est simple et ça marche avec des modules ECMAScript 6 sans toutes les bidouilles qu'il peut y avoir avec Jest et avec tous les autres. Et le dev server...
C'est pas le bidouille qui utilise Playwright.
Si, derrière, ils vont utiliser soit Playwright, soit Selenium, soit... le troisième, je l'ai plus.
Ah d'accord, il utilise plusieurs systèmes de test derrière. Okay, je pensais que c'était juste du Playwright.
Et...
Playwright, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le bidule qui fait justement tous les headless de Chromium, de WebKit, de Firefox. En fait, c'est marrant, ça fait les headless de tout le monde, sauf de Edge, mais c'est un outil de Microsoft.
En fait, c'est un peu la suite de Puppeteer. Et le dev server, pour ceux qui ont entendu parler de Vite chez Vue.js, le dev server de Modern Web est arrivé avant Vite et a fourni le même genre d'expérience de développement où il n'y a plus un bundler qui fait tourner ton ventilateur pendant ton dev et on charge quasiment tous les modules ECMAScript sans modification dans ton browser pendant la phase de dev. Donc regardez ce qu'ils font, c'est des gens brillants qui sont hyper intéressants et qui aident beaucoup dès que vous avez des questions. Et alors, petit shameless plug, il y a un plugin roll-up qui devrait bientôt arriver dans Modern Web qui a été fait par Clever Cloud et par votre serviteur notamment. Ça arrive bientôt.
Parce qu'on est, on est assez commit dans la... Dans toute la communauté web component, mais vraiment les web components bien découplés, bien pas nécessairement avec un framework. On fait du lit element direct, on fait des composants très petits. Donc ils sont tous open source et démonstrables dans un storybook. Et ça, enfin, vous pouvez aller voir comment ça fonctionne dans la storybook et vous pouvez aller voir comment c'est construit. Et nous, on est très commis dans cette communauté là et on est dans une discussion plus ou moins ouverte sur le sujet de façon à faire avancer ces sujets là. Et c'est une communauté de gens plutôt sympas et compétents. Et notamment en Europe, il y a les gens de chez ING qui sont à fond là-dessus.
Je précise, ça, ING cool. Pays-Bas. Enfin, j'ai rien contre les gens d'ING ailleurs, mais je sais que c'est des équipes assez séparées. Donc, je précise.
Ok, pas plus d'infos là-dessus. Ouais. On est bon, passe à la suite. Donc, Chrome nous fait un gros impact de load sur les routes DNS serveurs. En fait, ils ont rajouté une fonctionnalité de sécu, c'est ça, Hubert ?
Alors, c'est pour qu'on explique correctement. Dans Chrome, quand vous tapez un truc dans l'omnibar, ils appellent ça, je crois.
C'est ça.
Vous pouvez à la fois taper une URL. Est-ce que si vous êtes consciencieux, vous allez taper https://. Non, personne fait ça. Donc vous allez taper votre domaine potentiellement clevercloud.com, mais vous allez aussi pouvoir chercher la recette de la soupe à la tomate. Spoiler, il faut mettre des tomates et pas grand chose d'autre. Mais du coup, c'est à la fois une barre de recherche et à la fois une barre d'adresse URL. Et donc, ils ont...
C'est dommage parce que, Hubert, le soupe à la tomate, justement, c'est l'exemple qui ne marche pas dans l'exemple, dans la problématique qu'essaie de résoudre Chrome.
Ouais.
Fallait dire, tu cherches tomate.
Oui, ouais. Et du coup, c'est vrai. En fait, tout le truc, c'est que si tu tapes recette de soupe à la tomate, il y a des espaces, etc. Donc, ils savent très bien que c'est une recherche. Par contre, si tu tapes juste tomate, est-ce que c'est un domaine ? Est-ce que c'est une recherche ? Et donc, en fait, pour...
Tu pourrais avoir des intranets,
ouais, voilà,
par exemple.
Et donc, la problématique, c'est... Exactement. Il peut y avoir des domaines dans ce genre-là qui existent sur ton intranet. Et donc, pour éviter ce genre de problème, ce qu'ils font au démarrage et à chaque changement de réseau, ils font 3 requêtes sur des domaines complètement random avec des chiffres et des lettres. Et ça leur permet de savoir si sur le réseau sur lequel tu es actuellement, il y a un dispositif pour, on va dire, attraper les requêtes DNS et te donner une mire de connexion ou une mire de... Enfin, voilà, un truc que tu peux avoir dans un Wi-Fi public d'hôtel, etc. Et donc, quand ils font ces... Donc, en faisant ces 3 requêtes, ils arrivent...
La fameuse dégueulasserie du portail Wi-Fi captif. Sachant que tout ce que vous avez dans un portail Wi-Fi captif est en fait fourni dans la spec Wi-Fi. Il y a tout ce que vous pouvez vouloir dedans pour le gérer, mais c'était tellement mieux de faire un portail Wi-Fi captif dégueulasse qui va capturer votre trafic DNS, capturer votre trafic HTTP, recharger à la WarMat des pages que vous aviez soigneusement choisies, et du coup vous les éraser, et après vous avez 700 onglets c'est de la horrible. Même page alors que vous vouliez en fait cet article. En vrai, le portail Wi-Fi captif, mais c'est un drame ce truc, mais qui a eu cette idée ?
Ils captent le retour
DNS qui dit que le domaine que tu as cherché n'existait
c'est
pas.
C'est ça. Ils se servent de ça pour savoir ensuite si est-ce qu'ils vont pouvoir, si tu tapes tomate, essayer une vraie requête DNS ou directement faire une recherche. Et donc, le truc, c'est que dans la manière dont fonctionne DNS, la plupart des requêtes que tu fais, elles sont servies par ton fournisseur d'accès Internet ou un intermédiaire entre les deux, mais ça va très rarement jusqu'au serveur root, en fait. Sauf que là, comme ils envoient 3 requêtes random, c'est des domaines qui n'existent pas, personne ne les connaît dans l'un.
Et puis du coup, c'est un TLD.
En fait, ça va jusqu'au serveur root du TLD.
Et en fait, du coup, les serveurs root se demandent si Coffee est un TLD.
Exactement. Et donc, dans l'article sur apic.net, là, de blog, c'est assez marrant. Il y a un graphe qui montre que la fonctionnalité a été rajoutée en 2010 et qu'on est passé de... Enfin, il faut regarder la courbe pour comprendre, mais depuis 2010, le nombre de requêtes qui viennent de chez donc Chromium... pour ce genre de choses, a énormément augmenté. Et donc, actuellement, sur un serveur de VeriSign, il faudrait revoir l'article, il y a 50% des requêtes DNS servies par ce serveur root qui, en fait, sont des requêtes random de Chromium pour vérifier si vous êtes derrière un portail captif. Et en vrai, c'est assez affligeant. Et donc, l'article explique qu'il y a des issues d'ouvertes pour qu'on trouve d'autres solutions. Il évoque vite fait comment on fait Firefox, mais j'ai pas regardé en détail. Mais l'article est vraiment intéressant parce qu'ils reviennent dans les détails techniques de ce que j'ai vaguement essayé d'expliquer, quoi.
Un scandale.
Bon, après, faut dire ce qui est, mais les architectures DNS root, elles sont pas, elles sont pas exactement fabriquées. Enfin, des routes serveurs, t'en as des centaines, quoi. C'est-à-dire que t'as pas que. Enfin, globalement et normalement, il y en a un certain nombre. Je sais plus combien c'est 24, 12. Enfin, je me souviens plus du nombre exact. Qui sont officiels. Et en fait, quand vous faites une requête vers eux, en fait, à un moment, vous arrivez assez proche d'eux et les ISP qui les ont. Ont plusieurs serveurs route et redirigent une espèce d'anycast pour trouver les serveurs route qui sont les plus proches de vous. Donc, en vrai, il y a des serveurs route, il n'y en a pas 24, parce que alors là, les pauvres, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Donc, je pense que c'est débile ce qu'ils font, clairement, enfin, dans le sens, ça n'a pas de sens. Après, je pense qu'en termes de trafic, enfin, de ce que ça a comme impact, il n'y en a pas tant que ça, oui, ça augmente, mais
non, en fait, voilà,
je pense pas qu'il y a de gros, gros impacts sur le trafic. Après, ils ont aussi des... Et puis, il faut comprendre qu'ils ont carrément des... Et avant d'accéder réellement au serveur route, en fait, ils ont des proxys devant. Et ces proxys, en fait, captent vos requêtes. Et avec des tables de hash, des machins, ils sont capables de très rapidement savoir si un domaine, il a l'air d'être réel ou pas, et répondent directement si ce n'est pas, c'est carrément écrit quasiment dans la carte réseau. Ils trouvent la réponse en te disant non. Enfin bon, voilà, quoi. Donc, c'est vraiment du gros firewall quasi hardware à ce niveau-là, quoi. Donc, je ne pense pas que ce soit...
Non, en vrai, ce n'est pas très grave. C'est juste
que... Il doit y avoir d'art coder la globale liste des TLD. Elle doit être arcodée dans les routes serveurs, effectivement. Si vous voulez, je sais comment fait Firefox.
Ah, vas-y.
Si tu veux. En fait, Firefox utilise une fonctionnalité de DNS over HTTP.
Et c'est récent, alors, non?
Et en fait, leur partenariat à la base. Ouais, c'est assez récent. Mais le Detect Portail de Firefox, il est assez récent. Et en fait, c'est du DNS over HTTP. Et par défaut, il t'envoie sur les serveurs de Cloudflare.
D'accord.
Sachant que tu peux le changer, ça. Tu n'es pas obligé de passer par les serveurs de Cloudflare pour faire ton
DNS over HTTP. Non, mais alors, s'il y en a qui ont bien inventé des trucs bien débiles, on est quand même top, quoi. Les mecs, tu vas avoir une connexion TCP pour faire une requête UDP par-dessus, quoi. Tu sais, genre le truc.
Mais le truc, c'est qu'actuellement, c'est la meilleure solution qu'on a pour rendre le trafic DNS sécurisé, quoi.
Non, tu peux chiffrer.
Oui, mais dans la manière dont les standards sont faits, ça reste une proposition qui tient.
Ah, ouais. Non, mais le grand intérêt du DNS en UDP, c'était que si tu veux pour un paquet demandé, un paquet offert, quoi. Tu vois, quand tu passes en HTTP, fermeture de session, session, comment tu fais au milieu. Je m'appelle 22. Merci. Tu sais pas, genre voilà quoi. Donc. C'est la grande problématique qui ne sera jamais résolue pour des questions de groupe, du mode connecté ou du mode déconnecté.
C'est clair. Voilà.
On a besoin des deux modes, et on ne peut pas tout faire avec l'un et on ne peut pas tout faire avec l'autre.
Ouais, moi tout ce que je sais, c'est que globalement, à chaque fois que je me penche sur le côté des DNS, j'ai envie d'écraser une larme en sortant.
It's always DNS.
Non, mais quand même,
c'est là-dessus que tout tourne.
Ouais, mais quand même, si tu regardes, c'est quand même là-dessus que c'est vrai que c'est là-dessus que tout tourne. Et c'est quand même une des architectures réseau les plus intelligentes qui soient jamais sorties, quoi. Enfin.
Ouais, alors, nous, on a eu le plaisir d'implémenter un serveur DNS. T'as quand même peut-être 40 RFC qui s'empilent, qui se contredisent.
Non, mais, après, je suis d'accord parce qu'il y a une problématique de temps, c'est-à-dire que, enfin, de time, c'est-à-dire que quand tu regardes de quand date la première RFC sur le DNS, c'est quand même un truc de malade. C'est un protocole qui tient depuis l'histoire de la préhistoire de l'informatique. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Et l'architecture, globalement, elle tient la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois ce que vous êtes obligé de déployer pour être capable de supporter, je dis au hasard, 1 million de requêtes secondes en HTTP, c'est-à-dire le truc, mais t'en as partout, quoi. Ok, en comparaison de comment est-ce que tu tiens 1 million de requêtes secondes DNS, ben tu te dis, ben putain, les mecs qui avaient fait ça, c'était quand même super malin, quoi. Parce que si tu veux, avec un pauvre serveur dans un coin à 2 balles, tu tiens tout ça, quoi. Et pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'intelligence de faire un truc qui est effectivement, enfin, où il y a de la reprise sur erreur, il y a de la répartition de charge, il y a des systèmes de cache, c'est triparti, enfin, c'est hyper intelligemment fait et d'une simplicité sans nom par la même occasion. Et je pense que par exemple, si on avait eu l'intelligence d'utiliser ce même type d'architecture, ce qui est un peu celle qui a été créée pour le mail, hein, en termes de MX, hein, mais si on l'avait aussi fait pour HTTP, parce que moi je pense que la plus grosse débilité dans cette histoire de HTTP, c'est bien sûr c'est l'URL, où on se retrouve à requêter un serveur plutôt que de requêter des demandes de service, quoi. Enfin, et là, enfin voilà quoi, enfin entre guillemets, moi je milite pour qu'on passe tout sur champ SRV, quoi, tu vois, pour faire simple, mais ça éviterait beaucoup de problèmes, quoi.
Rapidement, peut-être les updates. Il y a eu une update de Chrome. Il y a des trucs pertinents.
Ouais,
de
en fait, là, dans les 10 derniers jours, il y a une update de Chrome et de Firefox sur Chrome. Alors bon, moi, je vous avoue tous les machins de ah, maintenant on peut faire des icônes avec les PW. Enfin, voilà. J'ai plus regardé tout ce qui est standard. On a le promise.any qui arrive, qui est subtilement différent du promise.race. On a le replace all aussi qui arrive. On n'a plus besoin de faire une regex slash g pour remplacer plusieurs occurrences de string dans une seule string. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a?
On aurait pu
s'en sortir. Ouais, non, il y a 2-3 trucs où ça devient un poil plus pratique. Et surtout, on a l'arrivée du format d'image AVIF dont on a parlé dans l'épisode X de notre podcast, je ne sais plus lequel, et qui est derrière un flag chez Firefox. Donc, c'est un peu le nouveau remplaçant, un peu le nouveau sauveur des formats d'image qui a l'air assez prometteur. Et j'ai noté aussi la disparition de l'app cache, l'ancêtre des service workers qui est en train de disparaître des origines sécurisées sur Chrome. Et je le note parce qu'en fait, c'est quand même assez rare qu'une API disparaisse des navigateurs et pour que ce soit noté, en fait. On est quand même normalement sur la sacro-sainte « faut pas casser le web ». Là, on est sur une...
Les mecs ont viré Blink.
Oui, ouais. Oui, la balise Blink et la balise Marquis, rest in peace. Mais non, ouais, on est sur une API qui est en train de disparaître des différents browsers.
Merde, la balise Blink a disparu.
Oui.
Ouais, ils l'ont baisé.
Mais tu peux le réimplémenter assez facilement. Avec un
non,
web
pas
component.
Envie.
Voilà, mais ça c'est envie. Côté Chrome. Côté Firefox, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, non, mais il n'y a pas grand-chose de fou qui m'intéressait. J'ai noté la propriété CSS Appearance qui arrive enfin sans préfixe. Bon, voilà, c'est révolutionnaire, n'est-ce pas? Et non, il supporte aussi un truc qui arrive l'année prochaine officiellement dans ECMAScript, qui est le Export Étoile as Namespace sur les modules ECMAScript. Donc ça, quand vous avez des modules et que vous réexportez, bah, je sais pas moi, module foo, bar et base derrière un seul module, c'est une syntaxe que vous allez facilement utiliser. Et donc là, ça arrive en natif. Ça, c'était pour Firefox.
Et Firefox a également sorti Firefox Relay.
Yes.
Firefox Relay, c'est une sorte de signing with Apple. via Firefox avec une sorte d'alias d'email aléatoire at relay.firefox.com qui redirige vers vos mails, ce qui vous permet de soit buter cet alias-là quand vous en voulez plus, soit de pouvoir flécher qui a vendu votre mail dans une base de mails, etc., et de rester anonyme le plus longtemps possible, que ce soit plus compliqué également pour des pirates qui récupéraient une base de données entière leakée de faire le lien entre vous et les informations personnelles, parce que du coup votre mail peut plus être utilisé comme
identifiant unique,
comme clé. Donc voilà.
C'est assez marrant de voir que à cette problématique-là, on a donc Apple et Mozilla avec des produits assez différents, mais qui proposent de mettre le circuit breaker chez vous, en fait, et de dire si je coupe l'alias, le spammer, le publicitaire ne pourra même plus m'envoyer de mail, alors que Hey et d'autres systèmes de mail assez récents, eux disent bah envoyez-nous tous les mails et on fait le filtrage côté après la réception, en fait.
Côté serveur.
Et je trouve l'approche de Firefox beaucoup plus intéressante, mais je serais intéressé que ça se rapproche de... Parce que là, actuellement, de ce que j'ai compris dans la bêta, il y a 5... tu peux faire 5 alias. Il y a zéro pricing, il n'y a rien. Donc moi, si je veux 27 alias, comment je fais? Et c'est surtout... moi, j'aimerais que ça se soit lié à mon gestionnaire de mot de passe, en fait. Et donc, je ne sais pas si c'est dans les cartons de 1Password et compagnie, mais si moi, quand je crée un compte, en plus de me générer un mot de passe, je pouvais me générer un email et d'avoir un email unique, différent sur chaque service, managé par mon gestionnaire de mot de passe, je trouverais ça trop bien. Donc, si vous ne savez pas quelle startup créer, vous la faites et puis vous me paierez un coup à boire.
Non, c'est plutôt pas mal.
Je connais les fondateurs de LastPass, hein. je peux lui en parler.
Voilà.
D'ailleurs, du coup, tout ça, c'est la Fondation Mozilla. Yes. La Fondation Mozilla qui sort une nouvelle version, qui sort un nouveau service. Ça a donné des répercussions dans la vallée, la grosse news mozillesque ou pas du tout
Non, enfin, pas que je sache, en tous les cas. Pas dans mes réseaux à moi, rien de particulier là-dessus. Les fondations, c'est un... Comment expliquer ça? C'est... la vallée, il y a vraiment les fondations, c'est un business vraiment à part. Ils ont toute leur communauté, leur système de fonctionnement, etc., etc., leurs moyens de financer et tout ça, c'est une économie qui est complètement parallèle à celle de l'économie des startups, pour faire simple, et qui n'est il y a pas de pont entre les deux. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde dans le monde des non-profits, ça se passe dans le monde des non-profits, et tout ce qui se passe dans le monde des for-profits, ça se passe dans le monde des for-profits. Donc du coup, moi, je suis plutôt dans le milieu des for-profits avec Quasar. J'étais dans le monde des non-profits avant, quand j'étais managing director de 42 Silicon Valley.
42, c'était une fondation.
42, c'était une fondation, ouais, tout à fait.
Ça l'est toujours,
ouais. Enfin, ça l'est toujours, d'ailleurs.
Ça l'est toujours, oui, j'imagine. Donc, du coup, c'est pas, c'est, voilà, c'est deux mondes séparés, quoi. Donc, ça a peut-être fait du bruit dans le monde des fondations. Je ne pense pas, parce que ça reste quand même une fondation, qui est pas, titanesque, Mozilla, en comparaison des vraies fondations à l'américaine, hein. Donc, du coup, ça se voit
oui,
pas trop.
Oui, sont des fondations, peut-être. Moins connu des gens, mais en fait, il y a des énormes capitalistes aux États-Unis qui, quand ils meurent, collent les 95% de leur fortune dans des fondations avec des assets, qui sont du coup des trucs qui gèrent des quantités de pognon incroyables avec un mission statement. Le mec qui l'a créé, en fait, a disparu, il est mort. Il a tracé, tu vois, une ligne en mode. Voilà, c'est
non, mais pour vous deux, en fait, il faut que vous compreniez, enfin, c'est un peu, enfin, quand on est français, je pense qu'on a, enfin, bon, en tous les cas, moi, je l'avais quand j'étais en France, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais t'as une vision quand même des fondations qui est un peu, tu vois, on va sauver les pandas, tu vois, etc., quoi, c'est, ça existe, hein, c'est pas la question. Enfin, quand tu dis des sommes astronomiques, je sais si vous, il y a une fondation par exemple qui s'appelle Silicon Valley Foundation. Si je demande à Clément, par exemple, à ton avis, elle est dotée à combien à combien? C'est-à-dire une grosse fondation, ça a combien de pognon sur son compte?
Allez, quoi, je sais pas, moi, je dirais 500 millions. À la
500 haut. Millions. Ouais. Bon, Silicon Valley Foundation, c'est 14 milliards. Et ça fait 1,5 milliard de revenus par an. Ok, donc si vous voulez, voilà quoi.
Toi, alors attends, juste une question.
C'est des fondations solides en fait.
L'argent, merci Hubert. Mais c'est des fondations dont l'argent vient aussi, si je me souviens bien, de mécanismes de défiscalisation que les fortunes font. Non, il n'y a pas un truc comme ça. C'est pas.
Si, voilà. Tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les fondations méthode US, il faut absolument pas les voir. Ok, il faut arrêter. Alors là, faut vous l'enlever de votre tête. Faut arrêter de les voir comme on est là pour sauver les pandas, ok? Les US, il y a une valeur qui est très importante, qui est la valeur argent, et qu'on soit sur une fondation ou qu'on soit sur une for-profit, la valeur argent reste la valeur argent. Et je parle pas de manière négative, je tiens à le préciser, quand je dis que c'est une valeur de société, et si vous n'acceptez pas cette valeur-là, c'est compliqué de comprendre, un peu mieux comprendre ce qui se passe ici. La différence qu'entre une for-profit et non-profit aux États-Unis, c'est juste que la for-profit, elle a des actionnaires. Voilà. Et la non-profit, c'est une société qui n'a pas d'actionnaires. Donc, en tant que for-profit...
Mais qui a un objectif.
Non, mais ta société...
Historiquement, une mission statement.
Oui, mais Clever Cloud a aussi une mission statement. Si tu as un code APE, tu as un truc à faire. Si jamais, avec Clever Cloud, tu te mets à planter des carottes... Le fisc a droit de débarquer en demandant pourquoi est-ce que tu es en train de planter des carottes alors que tu as dit que tu allais faire des serveurs, quoi. Tu vois, enfin, je dis au pif, mais tu vois, un truc dans ce goût-là. Donc, on est exactement, alors c'est un peu plus prégnant, c'est un tout petit peu plus contrôlé quand même que les for-profit à ce niveau-là, mais il faut comprendre que c'est là pour faire du fric, ça gagne de l'argent, ça a droit de vendre des produits, ça a droit de faire de la marge, etc., etc. Il y a juste que quand vous mettez votre argent à l'intérieur, puisque cet argent donc le capital que vous mettez dans la non-profit, le truc c'est que comme il appartient à personne et que personne ne peut l'avoir, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc il est défiscalisé. Alors du coup, ça fonctionne comment? Vous avez plusieurs fondations. Donc les fondations, comment ça fonctionne? Alors, Silicon Valley Foundation, ce que ça fait, c'est que ça prend l'argent de qui veut. C'est un fonds de placement, donc c'est un fonds d'investissement. Vous m'entendez bien? C'est un fonds d'investissement qui a un mission statement. Ok, les mecs, ils jouent en bourse avec votre pognon, ils le placent dans des trucs, dans des machins, dans des bidules. Ça gagne de l'argent grâce à ça. Et cet argent gagné, globalement, ils le réinvestissent dans des trucs avec le mission statement. Donc, imagine, vous avez Quentin et Clément.
Et le mission statement de la SV Foundation, c'est quoi?
Alors, je le connais pas comme ça. Ils sont là pour aider le monde, etc., etc. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils font. D'accord. Mais
très open,
ouais. C'est très open. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que il faut imaginer Quentin et Clément, vous revendez Clever pour des milliards de dollars et vous êtes extrêmement riche et du coup, vous décidez de vous tailler la barbe, enfin d'acheter un rasoir. Et là, chose absolument...
Du coup, je l'ai taillé cette semaine.
Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que cet argent-là, t'as énormément d'argent, et moi, je monte une fondation, tu me le confies, ok? Donc, moi, je le fais fructifier, je suis un fonds d'investissement, je fais du blé avec, ok? Et toi, après, derrière, ce qui se passe, c'est que mon mission statement, tu vois, il est assez large et intelligent pour que finalement, les gains de ce truc-là, quelque part, tu puisses me dire, écoute, moi, j'aimerais quand même que tu mettes de l'argent dans cette cause-là, ce truc-là, ce machin-là et ce truc-là. Ce qui fait que, en fait, c'est juste un bras armé de tes capacités d'investissement, ok, dans un certain nombre de choses, juste qui sont juste différentes de ce que tu avais jusqu'à maintenant. Mais le résultat, il est le même. Tu vois ce que je veux dire? Quasiment. T'as pas de problème. Donc les mecs sont payés des centaines de milliers de dollars pour diriger ce truc-là. À l'intérieur, t'as des systèmes de primes. Si t'as fait ci, si t'as fait ça.
Ouais, là t'avais le salaire de Mitchell Baker à la Mozilla Foundation qui liquait. C'était près de 2 millions. Quoi.
Ouais, non, mais tu vois, il y a aucun problème. Tu peux te payer 2 millions dans une fondation. Il y a aucun souci. Tu sais que la fondation, par exemple Stanford, pour récupérer les dons. Je crois que j'avais vu les chiffres, c'est un service de... tu sais de combien de personnes ils sont à Stanford pour récupérer les dons pour leur fondation? Je crois que c'est un service de 6000 personnes.
What?
De commerciaux, mec.
C'est abusé.
Ok? Mais il faut... C'est un véritable business énorme, super bien fait, hyper bien monté. Le premier milliardaire du monde... qui avait eu son fils qui avait été enlevé en Italie dans les années 50, 60, je ne sais plus quand, là, à ce premier milliardaire-là, en dollars, tout son pognon était dans une fondation. Il était milliardaire, mais tout était dans une fondation. Et il n'y a aucun problème à le faire aux États-Unis. Tu ne pourrais pas le faire en France, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc, si tu veux...
Non, en France, les fondations, elles sont sous l'égide de la Fondation de France, etc.
Et en fait, il y a un truc, moi, il y a un truc que, alors, il y a des trucs pourris dans le modèle étatsien, mais il y a un truc que j'aime, c'est que tu peux céder, en fait, à la fondation, par exemple, des parts de boîte, en fait, des actifs qui vont produire de la thune. Et comme ça, en fait, t'établis la fondation avec son mission statement sur une espèce de base granitique. Genre, allez, vas-y, c'est dans ce sens-là et pour 2 siècles, quoi. Parce qu'en fait, le truc peut être hyper solide, puisqu'en fait, elle a des sources de revenus. Elle est carrée et après elle déroule sa mission statement. C'est comme ça que les startups UK ont commencé. C'était la Kauffman Foundation. Les mecs étaient là pour l'évolution de l'entrepreneuriat par un mec qui s'appelle Henry Kauffman, qui est cané, je sais plus quand, mais c'est hyper vieux. Kauffman, enfin, je vais vous retrouver ça. Et en fait, le.
Ah ouais, tu peux faire des. Donc du coup, ils font des fondations qui sont d'une puissance. Enfin, c'est des machines, quoi. Enfin. C'est monté ce que je qualifierais de à l'américaine, quoi, tu vois. Donc, c'est le truc, c'est hyper efficace, ça fonctionne super bien. Voilà. Donc, c'est vraiment un business avec ces centaines de milliards de dollars. Il y a des écoles pour devenir commerciaux là-dedans. C'est toute une organisation. Tout le monde a sa fondation, etc. T'as les fondations familiales, t'as ce qu'on appelle les family office, c'est un truc énorme. Et par exemple, tu as aussi des entreprises qui font les deux. Donc, tu as, d'ailleurs, je disais qu'il n'y avait pas de jonction entre les deux, c'est pas tout à fait vrai, mais si tu prends, par exemple, un truc qui s'appelle Emerson Collective, donc, qui a été fondé par Lauren Jobs, qui est la widow,
la veuve.
La veuve de Steve Jobs, Emerson Collective est capable de fournir les deux. Ils sont capables de faire de la fondation et ils sont capables de faire de l'investissement en VC.
Dans le même genre, j'avais vu un reportage qui était fait sur YouTube par une boîte qui s'appelle DataGull. Ils avaient fait l'analyse en fait de ce qu'était la fondation de Bill et Melinda Gates, qui est aussi une des fondations très connues. Et qui analysait en fait ce qu'ils faisaient exactement en Afrique et tout. Et effectivement, toi, français, tu te dis waouh, ils vont soulever des verrous pour
ils vont sauver le monde.
Ils vont soulever des verrous pour améliorer les choses. Et tu te rends compte qu'en fait derrière, il y a tout un mécanisme de pognon dont tu parles, qui était assez insoupçonné en fait pour quelqu'un comme moi qui a regardé ce truc-là. J'ai vu ça l'an dernier.
En fait, c'est parce que culturellement parlant, c'est très compliqué. Si tu veux, la relation à l'argent n'est pas du tout la même entre les cultures françaises et les cultures américaines. Mais faire un truc sans argent comme ça pour le principe aux États-Unis, ça a relativement pas de sens. Ça a relativement pas de sens. Ça veut dire que tu vas faire un truc qui est pas sustainable, qui va s'écrouler. Tu vas embaucher des gens que tu vas planter. Enfin, t'es un enfoiré, quoi. Enfin, tu vois, tu ton truc, t'as monté une asso loi 1901 miteuse, machin. T'as pris un ou deux assistants.
T'as pas d'impact.
T'as quasiment pas d'impact parce que t'as pas de thunes. Comme t'as pas de thunes, tu peux à moitié pas les payer. Comme tu peux à moitié pas les payer, tu les
crées plus de problèmes que t'en résous.
Or, ce que je dis là, c'est que si vous prenez la peine d'aller voir ce qui se passe dans les tribunaux en France, et en particulier dans les prud'hommes, c'est 50%, enfin je dis au pif, mais c'est
beaucoup.
Non négligeable, c'est peut-être 30 ou 40%, c'est des problèmes de l'association qui a viré truc machin parce qu'il n'y avait pas de thunes et qu'ils n'avaient pas le droit de le faire dans cette truc bête. Et c'est vrai, quelque part, que ça existe aussi. Donc si tu veux, c'est vraiment, voilà, donc oui, non mais forcément qu'il y a quelque chose avec de l'argent derrière, c'est obligé, quoi.
Et du coup, puisque du coup on est en train de parler des US, là, en ce moment, on est en pleine crise du Covid. Toi, t'es dans la Silicon Valley parce que c'est un écosystème qui est vibrant. Et pour être transparent avec les auditeurs, moi, je vais régulièrement dans la Silicon Valley. En général, j'y vais avec Laurent, donc ça fait beaucoup avec Quam, ce qui dit il y a Gimli et Gunril qui nous viennent en train de visite. On vient creuser une mine, tout ça. Et puis globalement, Quam nous présente tous ses potes et du coup, on fait une bonne opération parce que ça nous évite d'avoir à passer 3 mois là-bas pour connaître tout le monde. Du coup, l'affaire peut se plier en quelques jours et on rencontre du monde intéressant. Globalement, en ce moment, l'ambiance, c'est quoi? Parce que, enfin, pour ceux qui ne voient pas l'ambiance de la vallée, l'ambiance de la vallée, c'est que t'as des événements tout le temps, tu fais des meetings tout le temps, et en fait, l'intérêt de la vallée, c'est que globalement, tous les gens qui t'intéressent sont dans une espèce de sphère de sans bornes, où
tu fais du lift globalement entre les 100 bornes, et une fois de temps en temps tu descends dans le Palo Alto, Menlo et compagnie, enfin la catastrophe du sud là, puis des fois t'es dans la vallée, mais globalement tu passes tes journées et tu passes ton temps à rencontrer des gens, ce qui est pas hyper Covid friendly. Du coup, c'est quoi l'ambiance là ?
Alors ouais, c'est très bien résumé. Donc je pense qu'une des, enfin il y a quelque chose de très très important dans la Silicon Valley, c'est ta capacité à faire du réseau. Encore une fois, c'est quelque chose qui est pas incompatible, mais qui est très très spécial quand on est français ou quand on vient. Bon, je vais dire français puisque je connais pas toutes les cultures européennes, mais effectivement, quand on, moi je me souviens très bien quand on est arrivé les premières fois ici, qu'on a fait notre première journée de network, la première soirée de network, on a rencontré personne, on comprenait pas ce qui se passait. Enfin, c'était assez drôle. Et puis parce que t'as une méthode pour faire du network à l'américaine, et si tu suis pas cette méthode, parce qu'ils aiment beaucoup processer les choses dans ce pays pour tout un tas de raisons, et je pense que c'est en particulier dû à la taille, parce que si tu processes pas, ben ici c'est le chaos quoi, tellement c'est gros. Hein. Faut pas oublier qu'en termes de population, c'est le troisième pays le plus grand du monde, derrière l'Inde et la Chine. Donc c'est vraiment énorme, et ils aiment beaucoup processer, et donc t'as des méthodes pour faire du network. Alors effectivement, une des grandes puissances de la Silicon Valley, c'est de faire du network, c'est de connaître les gens qui connaissent les gens, et de pouvoir présenter tes projets, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéressait en venant ici, c'était de me rendre compte que tu pouvais rentrer dans ce réseau et y participer. Puis la deuxième axe qui m'intéressait énormément, c'était comment monter une boîte, ce que je qualifierais de à la Silicon Valley style, hein, parce que donc pour faire simple, on peut imaginer que tu as autant de manières de monter une boîte qu'il y a de cultures dans le monde, et visiblement, dans notre domaine à nous, qui est plutôt autour de tout ce qui est technologie numérique, etc., etc., il semblerait que les plus grosses se montent à la méthode Silicon Valley. Donc moi, je voulais voir, ça voulait dire quoi, comment est-ce qu'ils font les choses. Enfin, ça m'intéressait, quoi. Donc c'était ces deux axes-là qui m'intéressaient, monter une boîte à la Silicon Valley style, et puis le deuxième axe, c'était des aspects réseau, comprendre comment est-ce que ça fonctionne, accéder à des gens qui sont quand même assez étonnants. Voilà. Et alors du coup, la problématique, c'est que là, la vallée, elle a perdu un peu 50% de son intérêt, puisque effectivement, on ne peut plus networker. Hein, c'est-à-dire
l'autre 50% étant la météo, quand même.
et alors, malheureusement, là, en ce moment, c'est-à-dire que là, tu vois, on vit avec les fenêtres fermées et tout parce que ça pue le cramer dehors, hein, parce que je sais pas, ils sont en train de foutre le feu à la moitié de la Californie, visiblement. Donc autant à Nantes, je pense que vous avez trop d'eau.
À Lille aussi.
Ouais. Autant nous là, on a trop.
Allez, ils ont aussi trop de bière.
Et donc du coup, genre tu peux découper l'air au couteau là, tu sais. Tu sais quand tu vois ouais Pékin, la ville la plus polluée du monde, tu sais genre ils sont à 150 particules, je sais pas quoi par air micro machin là. Toi, nous on est à 480.
vous avez les.
Genre à côté Pékin, c'est la Côte d'Azur, tu sais.
Vous avez vos pneus qui fondent sur la route.
Ouais, non, c'est ça. Donc du coup voilà. Bon bref, tout ça pour dire que ouais, donc niveau réseau, c'est un peu clairement c'est foutu quoi. C'est-à-dire que il y a on voit des tentes. Alors là, je vais participer à un truc, ça va être assez intéressant là, je suis invité dans un truc de réseau assez haut niveau, et on va voir comment ça va se passer, mais tout ça doit se faire en Zoom. Enfin, en vidéoconf quoi. Tout ça, c'est pas très très friendly avec les capacités à faire du social, et je pense que ça va être une des très très grandes leçons du Covid, ça va être comment est-ce qu'on va réussir à fabriquer des liens sociaux en vidéo quoi. On sait que c'est possible de fabriquer des liens sociaux virtuels, en particulier quand on voit ce qui se passe dans les jeux vidéo, les communautés Fortnite, CS à mon époque, Quake, Ikari Warrior. mais je pense que voilà, donc il y a des choses qui existent, c'est sûr, mais là aujourd'hui on ne sait pas très bien.
Il va falloir faire des nouveaux process.
Donc, c'est vrai que la Silicon Valley là, c'est un petit peu compliqué quoi.
Ouais, c'est je pense que ce qui se passe beaucoup, moi de ce que j'ai constaté, c'est que tu gardes très bien tes relations que tu connais bien, voire tu les approfondis, parce que du coup tu as des espèces de meetings d'une heure sur Zoom où c'est assez facile en fait. Par contre, créer des nouveaux contacts, c'est plus compliqué. Tu as tous les contacts de sérendipité par événement, alors là t'es niqué.
Alors clairement, non mais c'est clair. Après, c'est pour ça. Moi j'ai eu la chance de pouvoir fabriquer un très bon réseau en étant ici. Donc du coup, ce réseau-là, moi je l'ai toujours. Je discute avec des gens qui sont CEO de boîtes, de machin, qui sont VP truc chez Apple, chez des devs, enfin tout ce que tu veux. On continue à se contacter, il n'y a aucun problème, on se parle, on aimerait bien pouvoir boire une bière de temps en temps, ce serait un peu plus cool. T'es invité chez lui, t'es dans le jardin avec une table de 4 mètres entre les deux. Bon, c'est moins drôle, mais bon, au moins on se voit, on discute, on fume un cigare, on boit un whisky. Mais après, c'est pas effectivement. Enfin, voilà. Donc ces contacts-là, tu les as. Donc moi, je les garderai, je pense, pour le reste de ma vie. J'ai pas de problème là-dessus. Et puis après, pour en créer des nouveaux, c'est un peu plus compliqué. Donc ils continuent à t'introduire chez des gens et tout, mais tu sens que t'as pas le même. Ouais, de mon point de vue, en tous les cas, je sens que j'ai pas le même lien avec eux. Quoi.
C'est pas pareil. Ouais.
Bon, bah écoutez, à propos d'histoire de lien, peut-être, il y a 3 jours, c'était l'anniversaire de la création de Linux. Le message de Linus Torvald qui disait aux gens qui utilisaient du Minix ah, au fait, j'ai joué à ça, c'est un tout petit projet, c'est juste un toy. Ce ne sera jamais le grand truc qui est GNU. Et ben, c'était le 25 août 91. Et donc, Linux continue à vieillir et prendre de l'âge. Et à ce moment-là, c'était un petit projet tout mimi. Et maintenant, ça power la majorité des serveurs du monde très largement. Et tous les téléphones Android avec une surcouche discutable. Donc, voilà. C'était le petit côté anniversaire.
Du coup, 19 ans.
Et du coup, ouais,
c'est toujours pas l'année du Linux desktop, si? C'est cette année? C'est l'année prochaine,
si,
je crois.
C'est l'année du Linux
desktop. C'est cette année. Ouais.
Non, cette année, c'est l'année du Linux desktop. Je referai la déclaration, si tu veux. La déclaration est tous les ans, début janvier, je refais cette déclaration-là, que c'est l'année du Linux desktop. Donc, prochaine déclaration, janvier 2020.
Notre petite marotte, hein, t'inquiète pas, quoi. Ouais. Moi, je vois des gens qui pensent à IPv6, mais tous les ans, pareil.
Eh oui, c'est l'année de l'IPv6.
Non, mais attends, à un moment, l'IPv6, ça va arriver.
Oui, non, mais c'est sûr. Ah non, mais tu vois, c'est comme le mec qui, tu vois, c'est comme le mec qui est tout le temps malade sans l'être. Un jour, il tombe malade, il dit, ah,
ouais,
tu vois,
je pense plutôt qu'ils vont nous faire une PHP, en fait. On va passer d'IPv6. Non, on va aller directement IPv7. On va oublier IPv6.
IPv7.
Alors, ça risque d'être plutôt V8, mais
Bah, écoute, déjà, on l'a fait pour V27, tu vois.
Parce qu'en fait, dans IP, les versions impaires sont les versions de test.
Ouais, c'est ça. J'avais retenu ça en cours, mais
j'ai oublié.
C'était il y a 10 ans et on sais pas si déjà. Ouais.
Ah non, mais t'inquiète pas, moi j'étais en cours il y a 30 ans, on nous le disait déjà aussi. Hein. Tu sais, les couches ISO et tout, c'était génial. Ouais. Hein,
ça te l'aura appris, hein.
Ça sert à rien, mais on te les a apprises.
Je profite de la célébration Linux pour vous dire que il y a un nouveau driver NTFS sous Linux,
yeah,
qui est libéré par les mecs de Paragon Software, et en fait c'est ceux qui font le produit payant pour faire du Linux du NTFS sous Mac depuis des années. Donc c'est des gens très sérieux sur le fait de fournir du NTFS qualitatif sur Unix qui s'y sont collés, et donc peut-être que le driver NTFS va être de qualité. Et dans l'intervalle, il y a un driver BetterFS de qualité pour Windows. Et du coup, vous pouvez même booter une partition Windows en fait sur du BetterFS si vous voulez à présent. Donc voilà, c'était le petit point système de fichiers, ce qui est de moins en moins.
C'est quoi déjà?
N'empêche que je me souviens de ma première install de Linux. Hein. C'était il y a longtemps. Quand même.
C'est quoi déjà BetterFS, Quentin?
C'est le système de fichiers un peu par défaut, je dirais maintenant, de Linux. C'est le futur de XT4.
Ah, ouais.
Et c'est un.
C'est pas basé sur anciennement ZFS ? Non.
Non, c'est pas basé dessus.
Ça reprend des concepts de ZFS.
En fait, globalement, le portage de ZFS sous Linux s'est pris sérieusement les pieds dans le tapis pour X raisons. Du légal, du politique, du machin. Donc maintenant, ZFS sur Linux marche bien, mais globalement, les concepts de ZFS ont été reportés dans BetterFS avec des trucs plus linuxiens à l'intérieur, etc. Donc, bon, ceci dit, tu peux faire maintenant du ZFS sur Linux, ça marche à peu près, mais BetterFS, c'est un peu le poulain du kernel officiel, quoi. C'est la ligne officielle.
ZFS, on l'attendait tous sur à la fois Mac, Windows, un peu moins Windows, mais surtout macOS et Linux. On l'a jamais vu arriver. On s'attendait à ce que ce soit incroyable. Et le projet s'est tellement pris les pieds dans le tapis que c'est marrant. On voit APFS d'un côté.
C'est Sun Microsystem en fait qui s'est. En fait, c'est Sun Microsystem qui s'est pris les pieds dans le.
Quand t'as codé Solaris dans ta vie, forcément. t'as pas que bonne réputation, quoi.
Bon, ensuite.
À propos de bonne réputation, parlons des Russes.
Ouais.
Donc du coup, il y a un Russian hacker qui a essayé de voler.
Ouais,
t'as
un jeune russe de 27 ans qui a essayé de rentrer en contact avec un employé d'une usine de Tesla aux US, qui était également cet employé russophone. Et le type s'est pas fait avoir. Il a préféré aller voir directement je crois que c'était le FBI dès le début.
Ouais, c'est le FBI.
Ouais, voilà, pour aller dénoncer le truc. Donc, ce qui fait qu'ils ont pu en fait avancer dans le processus de piratage, mais sous couvert du FBI qui observait l'opération. Et ils se sont rendu compte que le truc était quand même assez gros. Donc, l'idée était de mettre en place un ransomware chez Tesla. Donc, je trouvais ça hyper flippant au début, parce que je me disais qu'il fallait éventuellement payer un bitcoin pour pouvoir freiner quand tu étais dans ta bagnole. Mais non, non, non. En fait, l'idée était de
shut down. C'est dans l'usine ou c'est sur les voitures?
C'était dans l'usine, en fait. C'était dans l'usine. L'idée était de...
L'idée, c'était de paralyser.
Voilà, l'outil de prod, récupérer des documents confidentiels et puis faire un peu de thunes. Il y a alors je vous invite à lire l'article qui sera dans les show notes, mais il y a un paquet d'infrastructures qui a été mis en place pour mettre en place ce truc. Et après, je crois que c'est équivalent de $200,000 de R&D pour des pirates, c'est quand même assez énorme pour mettre en place ce truc-là. Une méthode qui était assez vénère. Du coup, ouais, on est passé pas loin d'un truc qui aurait pu faire mal à la boîte, quoi, à Tesla. Et j'ai fini.
Cool.
Vous avez visité l'usine Tesla déjà? Vous avez déjà visité?
Tu l'as visité toi?
Ouais, j'ai visité.
Elle est finie?
Il y a un moment, c'était énorme. Donc tu te balades, bon, c'est les Américains, hein, donc, les mecs, c'est la plus grosse usine du monde avec les plus gros robots qui font les plus grosses voitures, qui vont le plus vite.
Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs.
Et donc j'étais avec un collègue français et puis il y a un moment, les mecs, ils nous expliquent. Donc là, vous allez voir deux robots, un qui s'appelle Hercule et l'autre qui s'appelle je sais pas quoi, donc ils ont des noms. Pourquoi? Parce que c'est les robots les plus puissants, enfin c'est les bras automatisés les plus puissants du monde. Et donc en fait, t'es dans un petit train, dans un couloir, quoi, tu vois, un petit train électrique, là, t'es dans un couloir, genre, tu vois, visite des buts de Chaumont pour touristes, là. Et
ça, c'est un truc qui est vrai, c'est genre, si en France on pouvait faire visiter les industries, mais les gars, vous imaginez même pas ce qu'il y a de cool en industrie, ah, en France, ouais. Alors qu'aux États-Unis, les mecs sont fiers de leur industrie. Enfin bref, c'était parallèle.
Non, et puis il y a concours de c'est qui a la plus grosse, quoi, hein, parce que c'est qui a la plus grosse, c'est quand même un sujet hyper important ici, quoi. Donc et donc, à un moment, on était avec notre collègue français, puis tu vois un des robots comme ça, tu vois, tu as gros bras énormes, là, et t'en as un qui fait comme ça, qui chope une Model X qui est un peu tout en squelette, à moitié montée, quoi, qui la prend comme ça, qui la monte au-dessus du couloir, tu vois, et qui la pose sur des grilles au-dessus du couloir, tu vois, et puis t'as un autre bras qui arrive, qui l'attrape et qui la pose de l'autre côté, et puis elle continue dans la chaîne, quoi, et t'as tout le monde qui fait « Waouh, t'as énorme !» et tout, et tu sais, là, t'as deux Français, tu sais, on se regarde, on dit « Mais pourquoi ils la font pas juste traverser hein ?» Et t'as l'autre qui dit « Monsieur, j'ai une question, ouais, pourquoi vous faites pas juste traverser la bagnole ?» Puis tu sais, t'as l'Américain, elle regarde « Non, mais donc, les plus gros bras du monde !»
En train de casser l'ambiance, ouais.
Sinon, j'avais plus simple, hein. Deux skateboards, enfin, je me comprends. Oh, bon, bref, c'était super drôle. Ceci étant dit, by the way, ouais, on a envoyé des jeunes codés dans le. Qui sont sortis de Silicon Valley, qui sont allés codés dans l'autopilote en tant que stagiaires. Hein. C'était. Bien cool, quoi. Enfin, pour eux, c'était quand même assez énorme, quoi. Les mecs, ils s'en sont retrouvés assis. Il y en a un, il raconte une histoire, il s'est retrouvé assis à un bureau. Il y avait Elon Musk qui s'est pointé à. Il bossait à trois bureaux de lui, quoi. Il était complètement tétanisé, quand même. Qu'est-ce que je fais? Ben, déjà, code, hein, et puis on verra pour la suite.
Bah, je trouve que c'est intéressant ce genre d'affaires de piratage aussi parce que ça prouve bien que le piratage a complètement changé d'usage. Aujourd'hui, c'est un business mafieux, c'est un business délictueux de gens qui sont juste là pour taper la thune et qui sont prêts à faire des gros investissements pour faire un coup, quoi. C'est juste, c'est Ocean's Eleven, mais sans la classe, quoi. Donc, C'est vraiment juste un business délictueux et ça a beaucoup changé de visage. C'est plus du tout les petits hacks de je suis le plus intelligent.
La grande époque
c'est vraiment
de Kevin McNeil, c'est la mafia, ça.
Bon, et puis même, tu as plein de ouais. contractors qui sont des gens en costard qui sont en fait des hackers, mais ils sont très bien payés. Ils fonctionnent exactement comme n'importe quel indépendant, sauf que. Comme c'est des activités illégales, ça fait vite des chèques et des factures qui sont assez élevées.
Le truc qu'il faut aussi qu'il faut que vous compreniez là-dessus, c'est que les débuts du net, si tu veux, les hackers, c'est plutôt des gens qui sont, c'est des borgnes dans le monde des aveugles. Hein, c'est-à-dire que vous avez pas connu, mais il y a une époque, par exemple, SSH, ça n'existait pas. Okay SSH n'était pas. Okay donc, à l'époque,
on faisait du Telnet.
On se loguait avec des commandes comme Telnet. Il y avait même mieux, il y avait une commande qui s'appelait Airhost. Et pour pouvoir te loguer sur la machine, distante, sans taper le mot de passe, hein, tu pouvais ajouter des trucs genre plus. Et plus l'adresse IP de la machine from, si jamais tu voulais ajouter un peu de sécurité. Okay et ça suffisait pour pouvoir loguer en route sur la machine.
C'est impossible d'être une IP de la machine.
Impossible. Surtout que tu vois, personne ne savait forger un paquet à l'époque. L'IP cap, ça n'existait pas. Donc à l'époque, on était obligé de la recoder nous-mêmes, ce qui était, parce que tu vois, sinon, on ne pouvait pas lire les IP des autres. Il y avait, où tu vois, des choses du genre. On n'était pas sur RJ45 et on n'avait pas de switch. Les switches, ça n'existait pas. On ne travaillait que sur des hubs ou avec du BNC, donc un câble qui pourrait
lancer. Comme si tu fais du cube, hein. Comme si tu fais du cube. Tu transformes tous tes switches en hub. Ouais. Ils ne savent pas faire de réseau dans le cube. Du coup, tu as tous tes switches, le mettre à jouer les hubs. Et du coup, tu t'effondres autour d'un. Bref, détail.
Ah, mais donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, c'était super facile de sniffer des paquets. Il n'y avait rien qui était chiffré. Quand tu savais sniffer un paquet, tu étais le roi du monde. Les sécurités hardware n'existaient pas, donc tu pouvais ordonner à un disque dur de planter ses têtes de lecture dans le disque en face, ce qui a créé toutes les légendes des hacks qui permettaient de faire péter des machines à distance. Vous avez peut-être connu, mais à l'époque, on avait les écrans à tube. Enfin, les écrans cathodiques et qu'il n'y avait pas les sécurités dans les cartes graphiques. On pouvait faire fumer les, on pouvait changer les fréquences des écrans à distance en changeant la conf de X Windows. Mmh. Donc, quand même, moi, j'ai explosé, je vous ai de le dire, mais on a explosé des écrans à distance chez des gens, quoi. Enfin, tu vois, des trucs, ça paraissait tellement, mais tu vois, c'était la 18e dimension.
Comme dans les films,
gens, ils te regardaient en disant. Mais c'était comme dans les films en vrai. T'as une grosse fumée blanche qui sortait de l'écran et tout. Il avait réellement fumé, quoi. Donc t'avais, voilà. Et je pense que ce qui s'est passé après, c'est que quand cette époque-là a commencé, bon, quand les systèmes d'information ont commencé à devenir des choses qui étaient sérieuses, parce que moi, à mon époque, tu plantais un logiciel, t'avais pas un 737 Max qui tombait par terre, quoi, tu vois. Donc tu faisais, c'était, il y avait rien de grave dans ce qu'on faisait, quoi. Après, quand les choses ont commencé à devenir beaucoup plus sérieuses, il y a quand même eu des renforts qui ont été faits sur les logiciels, l'utilisation quasiment systématique de la crypto, ce genre de choses. Et puis, là, ce qu'on a globalement vu arriver, c'est que c'est arrivé en même temps que l'époque du terrorisme, enfin, la guerre contre le terrorisme, on va dire. Du coup, quand t'étais pirate, t'étais considéré comme un terroriste, quoi. Donc là, c'était quand même tendu du slip, quoi. Et là, fallait vraiment s'arrêter parce que c'était plus possible, t'allais vraiment en prison. Mais juste avant, en plus, moi, je te parle à Epita, fin des années 90, on tapait des disputes avec les flics, ils venaient chez nous. Les mecs, ils avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, quoi. Tu vois, genre les mecs, ils nous disaient, ouais, on a chopé l'ordinateur, ils nous posaient le moniteur, quoi. Tu leur dis, ouais, alors il y a deux parties sur l'ordinateur, tu vois, il y a une tour, il y a un écran. C'est mieux que tu me ramènes la tour. Ah ok, donc du coup, les mecs, ils repartaient, ils revenaient avec la tour. Tu vois. Jusqu'au jour où le mec il arrive avec rien en disant, bah il y avait qu'un écran, quoi. Ah ouais, non mais c'est quoi comme Mac. Ah ouais, ok. Ouais, bah ramène l'écran parce que tu
vois. C'est énorme, ça.
Non, mais c'est tout ça, ce que je te dis là, c'est des histoires véridiques. T'avais,
T'avais les policiers qui se pointaient fin des années 90 à Epita, ils montaient, ils venaient nous voir dans ce qu'on a, dans le fameux bocal, et les mecs, ils nous disaient, mais ouais, on a tel mec et tel mec à chasser, on faisait track sur Internet et tout, enfin, track sur Internet, il faut voir ce que c'était qu'Internet à l'époque, hein. On avait une des plus grosses connexions de Paris, on avait une 2 mégas. Tu vois, ouais. Donc,
Puis Internet, on était 8 aussi.
Ah, c'est bien. donc, tu vois, t'avais plein de trucs comme ça, t'avais... tu vois, et du coup, voilà. Et après, je pense qu'effectivement, maintenant, je pense que c'est quand même super, enfin, c'est devenu quand même super compliqué. Enfin, moi, je me suis plus trop intéressé, mais je pense que c'est vraiment devenu de plus en plus compliqué de réussir à faire des choses un peu évoluer en termes de piratage. Bon, à la base, des trucs de merde, ton site est pourri, des injections, des machins et tout, bon, souhaite, mais je te parle pas de ça, des trucs un peu avancés, c'est quand même devenu super compliqué. Enfin, tout est de plus en plus protégé, seul mur.
Ça dépend, en fait, les gens sont nuls toujours, et puis après, la racine du hacking, c'est social engineering. Et ça marche toujours.
Même plutôt
en fait.
Bien.
Le social engineering, mais non, mais ça marche très bien.
Le social engineering, franchement, à une époque, t'en avais pas besoin. Les trucs, c'était open bar, quoi.
C'était, ouais. Tout pété, c'était juste l'accès à la connaissance qui était un peu plus restreint.
Tu avais un serveur de mail, mec. Le serveur de mail, le seul au monde, ok, c'était SendMail. Tu vois, ouais. Déjà, là, ça commence. C'est parti. Le seul serveur DNS, c'était Bind. Alors, une fois que tu as les mails et le DNS, ce qui prenait à peu près, grosso merdo, une bonne vingtaine de minutes, tu vois, bah c'est fini, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, un truc, quand même, la plus grosse merdasse jamais codée entre Bind et SendMail. Enfin, de ce que je connais, hein. Après, peut-être qu'il y a des trucs nouveaux qui sont sortis. Je crois que vous avez un truc genre WordPress de ce genre. Mais sinon, tu vois, enfin, les trucs, c'était open bar, quoi. T'avais zéro social engineering. T'avais même pas besoin, quoi.
C'est méchant de taper sur WordPress, c'est simple, c'est tellement simple.
Je sais pas. Non mais attends, on va continuer à exploiter ces capacités méchantes.
Le level de troll est où ?
Mais moi je troll pas.
Je rappelle, Quam était dans le cadre d'Epitech. Je rappelle, il a monté 42. Aujourd'hui, il gère une boîte d'éducation. Si je te dis que Yonis, donc Yonis, c'est la maison mère d'Epitech, ils viennent
d'acheter... Le niveau de troll, on avait prévenu qu'il serait haut.
Un commentaire ?
Moi, je pense que c'est très bien pour les anciens de Supinfo qui étaient un peu malheureux tout seuls à Nantes avec leur grosse barbe.
Ah, c'est gentil, voilà. Je sentais venir.
Bon, au global, on dit que c'est une bonne nouvelle pour les élèves qu'elle est coulée.
C'est une bonne nouvelle pour le diplôme, pour ceux qu'on avait besoin.
Petit rappel historique, quand même, Epitech, ça existait avant le groupe Yonis, c'est pas en fond. Mais le non non c'est bah, je bah enfin franchement c'est une super, c'est enfin c'est un super truc parce que les bon c'est très sincèrement dans l'histoire du truc moi ce qui m'inquiétait le plus sur Supinfo quand j'ai participé à la création d'Epitech ou après quand j'étais cadre sur Epitech, ce qui était très inquiétant pour nous c'était bon après je sais pas il y a des biais de confirmation, il y a des biais d'information, donc tout ce que je dis là, c'est un peu compliqué parce qu'on pouvait pas vraiment vérifier les informations, mais on avait des nouvelles qui étaient relativement assez catastrophiques de ce qui se passait dans l'établissement, mais tout ça, c'était des nouvelles qu'on avait à distance. Hein. C'était un peu plus du ragot ou des infos qui remontaient, mais bon, les seuls trucs qui apparaissaient dans la presse étaient quand même assez violents, ce qui s'était passé dans le sud-ouest du côté de Bordeaux avec les séparations, ce qui s'était passé. Ouais,
c'était compliqué. Ouais. Compliqué mais... c'est une boîte qui a toujours été gérée de façon un peu compliquée et à la limite du scam absolu. Enfin, t'as quand même des gens qui se sont enrichis très très fort, des gens qui ont perdu beaucoup de blé et des étudiants qui n'étaient pas très bien traités.
Pas très bien traités. Les news qu'on avait eues quand ils se sont fait tous dégager de Californie, je crois, pour tous les étudiants se sont fait sortir de Californie à grands coups de latte dans le cul par la Border Patrol pour rentrer en France. Donc, si tu veux, tout ça.
Ouais, alors, je vais faire un point historique pour ceux qui ne savent pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Supinfo avait monté un Supinfo États-Unis avec
la Dominican
Université en Californie, en parrainage. Et, Et donc du coup, il y avait quelques étudiants qui étaient partis là-bas, et Superinfo avait dit genre bah vous payez l'année, vous payez, on va prendre des maisons pour vous, donc payez-nous, on s'occupe des loyers et tout, puis payez-nous le visa, on s'occupe du visa. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah ils ont pas payé pour les maisons tout de suite. Donc en plus au début, les mecs étaient en auberge de jeunesse. Mais en plus, ce qui s'est passé, c'est que très concrètement, Superinfo a jamais payé le visa en fait. Sauf que l'administration américaine, c'est pas l'administration française avec laquelle tu peux toujours pour finir discuter. C'est-à-dire qu'à un moment, les étudiants de Superinfo aux États-Unis sont fait chauffer par la police des douanes, par la Border Patrol américaine, et sortis à coups de pompe dans le fion jusqu'en France. Retour avion, enfin, t'es acclandé, quoi. T'es acclandé.
Ça veut dire que tu peux revenir sur le territoire pendant minimum 10 ans, enfin.
Ah, c'est les implications.
Ouais, c'est ça. Parce que les jeunes, tu retrouves pas les pieds aux États-Unis, tu vois. Enfin, t'as pas le droit, en fait. Tu ne peux pas revenir aux États-Unis, ton passeport bip à l'entrée, tu ne rentres pas. Enfin, c'est grave.
C'était il y a combien de temps, ça?
C'était bah, il y a 10 ans.
Ouais.
Bah, c'était il y a 10 ans.
Maintenant, ils ont...
ceux du groupe,
ils ont le droit, mais en fait, à cause du Covid, ils n'ont pas le droit, quoi. C'est un peu.
Ouais, c'est ça. C'est...
Donc, moi, je sais pas. Bon, c'était des articles de presse, etc., qu'on a vu passer sur le sujet, donc je sais pas quel.
Moi, c'était des potes. Moi, je ça avait vraiment merdé.
Donc voilà. Donc moi, je pense que il y a après là où dans l'histoire des écoles privées type, pour faire simple, alternative en code en France, aujourd'hui en 2020, c'est quelque chose qui est hyper bien accepté. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a personne qui a dans l'idée de se dire que faire une école privée d'informatique en France, c'est un truc tout miteux, tout pourri. Dans le contexte. Des années 80, fin des années 90, quand on lance Epitech, c'est pas du tout la même. Hein. On arrive sur le marché, on se fait traiter de scammer, de mauvais. Enfin, moi je me souviens avoir été traité par un recteur d'académie que je ne citerai pas, qui m'a traité de menteur, de voleur. Un des grands trucs, c'est qu'il fallait absolument qu'on se crée une réputation. Qui soit quand même une réputation qui puisse faire que l'école soit sustainable, quoi, tu vois. Et alors certes, on avait des réputations un peu sulfureuses sur tout un tas de sujets, en particulier en sortant d'EPITA, machin, etc., parce que le piratage, le truc, le bidule, certes, mais on avait quand même des réputations qui étaient sulfureuses autour de notre domaine qui était quand même le code, tu vois. Et nos étudiants, ça réussissait plus ou moins bien. Les étudiants, ils trouvaient du boulot. J'ai jamais dit que c'était les meilleurs, mais ils trouvaient du taf, ils faisaient leur boulot, etc., etc. Et tout ça, ça a permis de créer une réputation de l'école. Et pendant toute cette création de réputation, moi, ma seule grosse crainte que c'était qu'il y ait une explosion, tu vois, genre, mais la vraie, vraie, vraie de Superinfo, et qu'on soit embarqué dans la même...
Oui, dans l'amalgame.
Voilà, tout le monde aspergé.
En disant, bah, tout ça, c'est des écoles privées d'informatique, c'est tout ce que des voleurs, c'est tout ce que des assassins. Voilà. Et donc, du coup, enfin, pour faire simple, hein, évidemment, je traite de trucs vite. Aujourd'hui, ce qui est bien sûr, je peux que regretter la disparition de l'école. Bon, c'est dommage, c'est bien d'avoir... Je trouve que c'est quand même bien d'avoir différentes offre, j'oserais dire, pour les étudiants, parce qu'on est tous différents et que c'est important d'avoir différentes offres de formation. Ce qui est important, c'est que de manière globale, les gens soient formés. Mais et aujourd'hui, bon, voilà, ça arrive aujourd'hui. Ce qui est super bien aujourd'hui, c'est que c'est passé, mais enfin, je veux dire, on en a entendu parler dans le microcosme. Enfin, moi, j'ai l'impression, hein, après, je suis pas en France, donc je connais pas tout, mais j'ai l'impression que c'est passé quand même dans le microcosme des écoles, des machins, des trucs, des bidules.
Ça a fait un peu sur
ouais, et puis en plein mois d'août,
c'est super. Les étudiants, ils sont repris par le groupe Ionis, qui est quand même un groupe ultra sérieux en termes d'éducation. C'est super solide. Je crois que des news que j'ai cru entendre, ils vont être intégrés directement dans Epitech.
Opération blanche pour les étudiants, quoi.
Emmanuel, le patron, enfin le DG d'Epitech, là, Emmanuel, c'est un mec super sérieux, hyper solide, hyper carré. Enfin, ça va bien se passer, quoi. Enfin, je veux dire, en vrai, quoi. Donc, il y a pas de problème, quoi. Enfin, je pense qu'il y aura pas de problème, voilà. Et je pense que c'est à tout le monde de jouer le jeu pour que ses étudiants puissent être bien, puissent se sentir bien intégrés, culturellement parlant, dans l'établissement. Je pense que tout le monde est super content qu'il soit là, quoi. C'est super. Et puis du coup, bah, là, pour le coup, je ne sais pas combien ils vont avoir d'étudiants dans Epitech, mais j'avoue que nos 100 pelés et 2 tondus qu'on avait en 98 ou 99, là, ça a beaucoup changé.
Ah, Epitech, gros succès, hein. Bravo. Toujours dans cette histoire de réputation, ça c'est un petit post qui est sorti cette semaine qui parle du système de squad. Tu sais, vous savez, dans le modèle agile, souvent on vous parle du système de squad de chez Spotify avec un branding, une vision, les squads qui se parlent, les tribes, tout un truc très dessiné, très expliqué. Et en fait, c'est quelqu'un de chez Spotify qui dit, alors, un, ce truc-là, en fait, on l'a jamais réellement utilisé. En fait, on a essayé de faire des trucs qui ressemblaient à peu près à ça. Une boîte de consulting et de design qui est venue, qui a bien packagé, qui a mis des termes, qui a mis un joli template, qui a shippé ça sur le web. Et voilà. Ça a merdé, mais alors plein tube. Et du coup, depuis, ça a été reconfiguré 14 fois. On a passé notre temps à regarder ce que faisaient les autres, repinguer, rebuilder. Et en fait, on a des problèmes. Et petit à petit, on les résout. Et voilà. Mais en fait, le modèle, il est absolument pas figé dans le marbre. Et en fait. Enfin, ce qui a été vendu par la boîte de com, en fait, qui a fait ça, genre, bah, c'est pas du tout, en fait, genre, c'est une presse, en fait, c'est une presse. Et en fait, j'ai trouvé ça à mourir de rire, parce que ça m'a fait penser à un truc que je dis très souvent, que j'ai piqué à Oussama, qui est de dire, arrêtez de comparer votre inside à l'outside des autres, et n'oubliez pas que toutes ces grosses boîtes ont des enjeux de recrutement, ont
Image.
des enjeux de dire que ce sont les meilleurs, d'image, qui sont bien au-dessus des vôtres. Et en fait, à chaque fois, t'as l'impression que chez eux, c'est extraordinaire. It is amazing, you know. Et tu sais, genre, t'as toujours l'impression que les mecs sont meilleurs que toi et tout, mais en fait, t'es pas à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur, ah bah, c'est le bordel comme chez tout le monde. Et donc, faut pas comparer ton inside avec l'outside des autres parce que bah, ce qu'ils affichent à l'extérieur, c'est pas la même chose. Et qu'en fait, bah, faire travailler des gens ensemble, c'est très difficile. Et donc, faudrait arrêter en tant que consultant agiliste de nous dire, c'est simple, Spotify il a fait, vous avez qu'à faire des tribus et des swarms et des squads et des machins et ça ira très bien. Moi, je pense que l'organisation humaine des gens, c'est avant tout du management et que chaque management doit s'organiser autour de gens qui inventent et qui sont réactifs et qui trouvent et que la méthodologie, c'est une façon de figer dans le marbre des trucs qui ne devraient pas être figés.
C'est clair, enfin, c'est un sujet qui est fondamental au cœur des boîtes, ça c'est évident. Moi je pense qu'il est extrêmement lié à la culture des entreprises. C'est-à-dire que si tu as une culture de militaire carré avec un général de trois colonels, trois sous-colonels, 12 capitaines, 7 lieutenants et machin, etc., bah, c'est comme ça que tu organiseras ta boîte. Et les gens qui vont rentrer dans la boîte, ça doit être des gens qui doivent, entre guillemets, penser de cette façon-là. Il y a des secteurs où le but du jeu, c'est pas d'inventer, hein. Moi, quand je monte dans un Airbus, je veux qu'il vole, hein. Et je n'ai pas là pour tester, tiens, et si je coupais une aile pour voir ce qui se passe, quoi, tu vois. Non, non, vous me faites un vrai truc qui marche normalement, quoi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que ces enjeux d'innovation, etc., c'est des enjeux qui sont assez complexes. Qui sont assez complexes comment dire, à penser, mais qui doivent être remis vachement dans la culture locale de l'entreprise, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis assez, ce que je qualifierais de contre les incubateurs, parce que tout incubateur, finalement, tu t'inculques. Enfin, alors, ça dépend qui est dedans, hein, mais je parle pour peut-être des entrepreneurs qui sont moins expérimentés sur la construction sur la construction de leurs premières entités, de leurs premières entreprises, vous allez attraper la culture de l'incubateur qui est pas forcément la vôtre, quoi, tu vois. Et ça c'est tout sauf bon, quoi. Enfin, c'est vraiment très 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 problématique, hein. Des trucs qui font marcher une boîte, c'est la culture, la culture et la culture. Et donc il faut trouver des gens qui sont culturellement adaptés à votre entreprise, qui sont culturellement adaptés à votre mode de fonctionnement. Quand je vous vois tous les trois là fonctionner, c'est évident que, enfin, il y a forcément une alchimie qui se monte entre vous,
Ah,
et qui est une
carrément.
alchimie parce que vous avez des centres d'intérêt, vous avez une culture qui est commune, etc., etc., etc. Mais je suis pas sûr que si on ramène, je dis quelqu'un qui est très opposé à votre culture là-dedans, à part tout désorganiser, foutre un bordel, qu'à la fin ça marche pas très bien, voilà. Si j'ai là. Or, les problématiques de recrutement plus large des entreprises, c'est une question effectivement de. Tu peux pas recruter finalement dans ta culture. À un moment, ça peut poser un problème parce que tu n'as que des gens qui sont un peu les mêmes. Alors, ça pose des problèmes parce que d'abord, quand tu te reproduis entre vous, au bout d'un moment, ça peut créer un certain nombre de dégénérescence.
Tout à
Et
fait.
alors, pour avoir créé et monté un paquet d'écoles depuis 22 ans, je peux te garantir qu'on en a sorti un paquet de dégénérés, quoi. Enfin, on a eu des vraies problématiques dans les écoles qu'on a eu à gérer, qui sont dues à des dérives culturelles, dues à la culture initiale qui a été créée dans l'école. Et c'est très, 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 très compliqué à rattraper, quoi. Je pense que ça se rattrape quasiment pas. Je sais pas, faut voir, mais en tous les cas, ouais. Donc, du coup, il faut avoir, ouais. Enfin, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, moi, je pense que vous devez vous interroger sur qui vous êtes. C'est vous qui allez impulser et donner la culture de votre boîte. Si vous avez une culture, je dis au hasard, costard, cravate, machin, je vois pas pourquoi vous allez vous forcer à vous balader en t-shirt avec une barbe. Ne faites pas, faites votre culture, soyez ouvert sur qui vous êtes, de manière à ce que les gens, quand ils vont se dire, ah, je vais m'associer avec cette personne-là, ils se disent, enfin, il n'y a pas eu tromperie sur la marchandise, quoi.
Moi, je vais aller à pleine balle dans ton sens, parce que la culture, c'est hyper important, et je pense qu'un des moments où dans notre culture, on allait le plus mal chez Clever, c'était il y a 6-7 ans, je finissais par être vraiment affecté par plein de gens qui me disaient tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça, tu devrais être... Enfin, plein de gens qui essayaient de me lisser et qui essayaient d'emmener Clever dans un rôle qu'elle n'était pas faite pour, et qui essayaient vraiment de me convaincre de changer des trucs culturels profonds que je devais pas changer, et toute la boîte allait mal, les gens allaient pas bien, il y a plein de trucs qui déraillaient, notamment il y a l'impact de quelqu'un de très négatif sur moi, à ce moment-là, qui était dans la boîte et qui, par ailleurs, après, s'est révélé être un des pires arnaqueurs de notre vie après. Et en fait, ce qui m'a permis de sauver la boîte, c'est que j'ai lu un bouquin qui était Finding and Hiring the Next Steve Jobs, qui est Nolan Bushnell, qui est le premier employeur de Steve Jobs et globalement le seul, parce qu'après, Jobs, il a monté Apple. Et en fait, c'est une série d'anecdotes de chez Atari, puis de chez Steak and Cheese, parce que c'est les boîtes qu'a créé Nolan Bushnell, donc c'est, voilà, et c'était lui l'employeur de Steve Jobs. Et je dis pas du tout que j'ai repris la culture d'Atari, rien à voir. C'est juste qu'en lisant ce truc-là, je me suis rendu compte de combien il avait raison, de A à Z, d'avoir imposé sa culture et d'avoir suivi sa culture. Et en fait, ça m'a remis la tête droite sur le fait que ma boîte, c'était ma boîte, en fait. C'était notre culture, c'était la culture des fondateurs au moment où on avait créé la boîte. Et que si on avait décidé de faire ça dans ce sens-là, c'était pas pour rien. Et que du coup, on allait faire ça dans ce sens-là. Et en fait, ça a tout recalé propre. Et du coup, un, je vous recommande ce bouquin, et deux, je pense que la culture, c'est le truc le plus important. Et arrêtez de croire que vous pouvez pomper le marketing culturel de d'autres boîtes que les vôtres, parce qu'en fait, ça marche pas, en fait. Enfin, juste assumez votre culture et ce sera très bien. Dites-vous que sinon, c'est de l'appropriation culturelle.
Non, ça y est, c'est la vanne. Ça va être l'inside joke de trop, ça.
Je prends un montage.
Ah, en vrai, c'est drôle cette idée d'appropriation culturelle dans les boîtes, comme quoi c'est un truc mal. C'est un concept.
Oui, pour le prochain podcast. Concept.
Mais juste avant de terminer, en digression sur ce que tu disais, ne comparez pas votre inside à l'outside des autres, parce qu'en fait, tu sais pas comment ça marche derrière. Il y a le même problème sur les réseaux sociaux de manière générale, et même plus précisément sur les réseaux sociaux numériques, autour de la tech, où on voit beaucoup de gens, des développeurs, développeuses, se comparer au profil public, on va dire Twitter et GitHub, de gens qui sont des stackanovices du dev, qui publient je sais pas combien de trucs. Et ces gens sont persuadés que, ah, t'as vu, lui, c'est une star, c'est machin. Ouais, sauf qu'en fait, ce que tu vois pas, c'est que bah ça se trouve il dort pas, ça se trouve il a pas de famille, ça se trouve il déprime, il fait un burn-out. Et il y a ce même problème.
Si se trouve ils sont quatre aussi à faire,
oui,
leur boulot.
Oui,
hein.
Il y a déjà eu
souvent,
ça aussi.
Les gens
aussi
disent tout ce que tu fais chez Clever, tu sais, genre ouais, ce que je fais chez Clever, calme-nous. Hein. J'en fais un paquet chez Clever, je suis loin de rien glander. Par contre, en vrai, Clever, ça tourne, ouais, sur une équipe.
Mais il y a, ce même problème sur les individus, je trouve, et c'est toujours intéressant de se souvenir que bah, quand tu vois les photos de vacances de ton pote, quand tu vois le profil GitHub de X ou Y, oublie pas que c'est que ce qu'il a décidé de te montrer. Et voilà.
C'est pas faux. Non, mon GitHub, il est bien miteux. Mais... J'ai rajouté une API, j'ai rajouté une librairie codée en Elixir.
Ah, voilà.
Dernièrement.
Ça augmente ton potentiel de coolness sur GitHub, je pense.
Ah, Elixir, c'est assez cool déjà. Tu vas vers la hipsterisation, fais attention. Bon, c'est quoi, c'est un vrai MPCAP?
Non, parce que je dois fabriquer des invoices pour mes clients et en fait j'utilise une boîte qui s'appelle build.com pour fabriquer les invoices et ils ont une API et donc j'ai codé la librairie pour me connecter dessus un peu viteuf là et comme il y avait un peu 400 fonctions à coder que ça m'a j'en ai profité pour faire, comme dirait Hubert, de la génération de code.
Ah non, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Clément.
C'est ma faute, ça. Génération de code.
Ah, c'est Clément,
code. Je suis trompé.
Bref, Hubert, il sait ce que c'est que le métaprogramme.
J'ai métaprogrammé le truc.
Bah, je fais que des langages dynamiques, moi, alors tu sais. Métaprogramming, c'est ma seconde nature.
C'est ma seconde nature. C'est un peu chiant, bah, les mecs, c'est compliqué après à relire quand même. Pour les, pour les gens. Ça, c'est pas évident, quoi.
Mon lien suivant rentre dans la liste des petits utilitaires Rust que nous distillons par épisode.
J'étais étonné que Quentin me parle plus d'une heure sans me placer un petit Rust.
Et si, c'est notre marotte.
Ouais.
Nous, dans Rust, on est dans le master slave. Tu comprends, c'est de l'appropriation culturelle.
Alors, moi, je ne fais pas partie de cela. Moi, je suis juste sur le. C'est pas du C, tu ne feras pas de conneries dans la gestion de la mémoire.
Je connais un mec qui avait recruté un mec qui est devcore chez Rust. Donc, le gars, il est noir, il est comorien d'origine, tu vois. Il est à peu près aussi nègre que moi. Et un jour, le mec de Rust se barre, démissionne en lui disant non, mais. De toute façon, dans cette boîte, vous êtes tous racistes. Tu le regardes. Passé. Bref.
Non, puis c'est vrai que Mozilla, ils sont pas du tout cœur chaton, quoi. Bref, du coup, Disconaute, ça fait quoi? C'est un soft qui va vous permettre de visualiser les espaces pris sur votre disque dur. Donc, c'est de la CLI. Mais c'est globalement, ça va vous faire un full screen en Ncurse et ça va vous permettre de visualiser par R les dossiers qui prennent de la place et vous aider à faire le ménage parce que vous trouvez que les gigabits de NVMe sont trop chers chez Apple et donc du coup vous avez acheté des Mac avec des trop petits storage, et ben du coup vous allez pouvoir faire le ménage des trucs qui prennent de la place. Le gros intérêt, c'est que ce genre de soft de visualisation aussi d'habitude sont des softs de visualisation GUI,
ouais, genre
pure,
Baobab,
alors que celui-là
ils sont très chers.
Ouais. Et non, mais au-delà de ça, c'est surtout que si jamais vous faites des choses qu'il ne faudrait pas faire, genre gérer des serveurs à la mano, par exemple, et faire votre espèce de serveur que vous gérez de façon un peu dégueu et que vous n'utilisez pas Clever Cloud, et que vous avez un problème de storage, bah du coup, vous pouvez lancer Disconaute sur un serveur, ce qui peut parfois, je pense, vous sortir de la merde, éventuellement dans certains cas. Donc, je me suis dit que c'était un outil qui pouvait être sympa. Puis bon, bah, c'est open source, voilà. C'est dur.
Je suis du Kubernetes, hein, comme tout le mec un peu hype.
L'invité à quitter le podcast.
Bon, allez, les mecs, un peu hype, là. là-dessus, on va faire la petite recommandation musicale. Moi, j'ai pas de dé. Est-ce que quelqu'un
Hubert,
a des...
t'étais parti en chercher. Hein.
Ouais.
Donc, ça va être Hubert qui va lancer le dé.
Ok. Dé, est-ce que tu peux lancer Rand? Donc, pendant que Hubert lance le dé, je rappelle le principe. On a chacun mis un lien musical et il y en a qu'un seul qui sera choisi. Ce sera la recommandation musicale de l'épisode. Hubert, lance le dé et moi je te dis.
Du coup, vu que ça fait 10 semaines que je veux que ma musique soit choisie et que je choisis la même à part la semaine où Ennio Morricone est mort, je peux tricher en fait ou c'est toi qui. Ouais, je vais te dire le numéro et tu me diras après.
En fonction de l'ordre des vignettes.
Alors attention.
Comment est-ce que je peux tricher?
19.
C'est ce qu'on appelle du random, ce qu'on appelle du random dynamique. Quoi. Tu balances un dé et moi je te dis quelle musique va sortir. Ouais, bien sûr.
19.
19, c'est le dernier dans la liste. C'est donc Quam.
Ah. Eh ben vas-y.
C'est ça, je suis à Y.
Hubert va finir par faire la gueule.
Hubert.
Je suis dégoûté.
Donc vas-y, on lance la musique, Quam. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous parler de ça?
De musique des années 80. Je trouvais que c'était à propos. Je vous fais passer de la musique des années 80. Voilà. Donc c'est un.
Dead Can Dance.
Oui. C'est un groupe de musique qui s'appelle Dead Can Dance, qui est un
un vieux groupe de musique qui fait de la musique un peu lyrique, très orienté goth, un peu aussi, tu vois, années 80-90. Je sais que c'était bien pour eux.
Écoute, franchement, c'est cool. Pour l'instant, je suis content d'écouter. Ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on puisse commencer à désannoncer le podcast. Où est-ce qu'on peut vous retrouver les uns les autres?
Mais alors, moi, vous pouvez me retrouver principalement sur Twitter, où je tweet en général des liens rigolos et un peu sur le cloud, sur le pseudonyme Cenivol, C-N-I-V-O-2-L-E.
Hubert?
Alors, moi, vous pouvez me retrouver sur mon Twitter H-Sablonnière, Sablonnière comme une sablonnière, avec deux N. Et sur le support Clever, si vous avez des questions sur la CLI ou la console, parfois.
Et Kwam, du coup, t'es sur Twitter, t'es plus sur LinkedIn?
Non, je suis plus présent que sur un seul réseau social. Globalement, je suis présent que sur Twitter. Vous pouvez me retrouver sur Kwam42, K-W-A-M-E 42, 82.
Et peut-être, est-ce que c'est possible pour les gens de tester des trucs sur Quasar ou pas du tout?
Ouais, on n'a pas fait de, on n'a pas de truc de démo comme ça assez simple à utiliser. Donc c'est un peu compliqué, mais si il y a des gens qui veulent essayer, je vais me démerder pour trouver une solution.
Est-ce que vous avez l'ambition d'essayer de monter de trouver un partenaire en France pour lancer un Quasar ou pas du tout?
Non. Non, pas trop. Non, mais voilà, comment la réponse est donnée. Non, c'est pas trop dans les déploiements. La France n'est pas un pays qui est très très prioritaire pour nous, pour tout un tas de raisons. Et la première, c'est que l'offre d'enseignement en France, elle est déjà super bien couverte. Et je vois pas très bien ce qu'on pourrait apporter de plus. Je pense qu'aujourd'hui, ouvrir une école en France de code, c'est un peu tout qui sert à rien. Enfin, vous dépensez beaucoup de temps pour pas grand chose. Là où il y a plein d'écoles super qui existent déjà, quoi. Une offre, enfin, ce que je veux dire, c'est que dans le monde, la problématique, c'est pas de savoir comment apprendre le français à côté, quoi. Je pense qu'il y a déjà plein de choses qui existent, que ce soit de l'offre publique, de l'offre privée. Après, si tu veux faire un petit coup marketing, tu peux peut-être en ouvrir un si tu as besoin de te positionner en Europe. Mais voilà, donc non, nous, moi, on est plutôt positionné sur les pays où il y a des grosses problématiques d'éducation et d'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur en France, je crois que tu te retrouves aujourd'hui, on commence à avoir genre 40% d'une classe d'âge qui rentre en enseignement supérieur, ce qui est quand même vachement par rapport à d'autres pays où tu peux te retrouver à des ratios qui sont inférieurs à 10%, etc., etc. Ouais. Et donc le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de donner un son.
Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé cette heure et demie en notre compagnie, c'était très cool. Merci de t'être levé aussitôt aussi pour cette occasion.
Ouais, à tous les cas, merci beaucoup.
Il est tôt chez toi. Et puis, bah, merci à tous de nous avoir écoutés, de l'avoir suivi jusque-là. Puis, bah, à la semaine prochaine.
Allez, merci à tous, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Merci à tous, ciao.